France Culture.
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1975, Angela Davis, activiste du Black Feminism et militante communiste, était de passage à Paris. C'était quelques années après sa sortie de prison. Le producteur Jean Montalbetti la rencontrait. Une interview exclusive diffusée le 16 mai 1975 dans le cadre des après-midi de France Culture. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir avec cette archive le français impeccable d'Angela Davis.
Angela Davis, il y a 5 ans, vous étiez inculpée puis arrêtée. Il y a 3 ans, vous avez été acquittée. Où en est maintenant votre vie de militante noire?
Après que j'étais libérée, nous avons essayé immédiatement de construire un mouvement plus grand, plus épandu contre la répression raciste et politique. Et nous avons surtout essayé de dire à toutes les personnes qui ont participé dans le mouvement pour ma liberté aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Il y avait d'ailleurs un très grand mouvement ici en France. J'ai lu dans les journaux, ma sœur a été ici à participer dans la grande manifestation de, je crois, 50 000 personnes à Paris. Nous essayons de construire un mouvement pour libérer tous les prisonniers politiques, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui sont en prison à cause de leurs idées et leurs activités politiques. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont en prison à cause du fait qu'ils sont noirs, qu'ils sont chicanos, ce sont des Mexicains nés aux États-Unis, qu'ils sont indiens, puertoricains, et aussi qu'ils sont puisqu'ils sont pauvres. Je pourrais parler, par exemple, de l'histoire des 6 de Saint-Quentin. Ce sont 6 hommes noirs et latino-américains qui ont été chargés de meurtre et plusieurs autres charges autour de l'assassinat de George Jackson. Toujours lorsqu'il y a des crimes officiels, les officiels essayent de divertir l'attention de leurs crimes par dire que les coupables sont les victimes. Il y a des procès qui maintenant sont en train de se dérouler et nous essayons de faire exactement la même chose pour toutes les autres victimes de la persécution qu'on avait fait pour moi.
Oui, mais alors justement, ce dont vous me parlez là, c'est plutôt un mouvement défensif dans le cadre d'actions judiciaires contre des militants noirs. Et au fond, c'est un peu ce qui s'est passé pour vous et ce que vous racontez dans votre autobiographie.
Oui.
Mais enfin, le mouvement noir, le mouvement de libération noire a connu, on a l'impression, un peu son apogée dans les années 60. Alors, est-ce qu'il est réduit justement à cette action défensive en faveur de prisonniers politiques dans les années 70?
Non, c'est pas du tout vrai. Parce que le mouvement pour la libération noire continue, comme le mouvement pour la libération des autres nationalités opprimées, comme les Indiens, les Puertoricains, etc., comme le mouvement contre l'exploitation économique. Mais nous avons essayé, lorsque je dis nous, je parle des camarades, non seulement dans mon propre parti, dans le Parti communiste, mais aussi dans beaucoup d'autres partis politiques, dans beaucoup d'autres organisations militantes, dans des organisations religieuses, dans des organisations de communautés. Nous avons essayé de construire un shield.
Un front commun?
Oui, un front commun, un front uni pour créer, pour pouvoir protéger tous les mouvements. Vous comprenez, les mouvements continuent à se dérouler, mais s'il n'y a pas un front uni pour défendre toutes les organisations progressistes, tous les participants progressistes, alors le gouvernement pourrait très très facilement complètement détruire n'importe quelle organisation. Par exemple, si vous regardez ce qui s'est passé au parti des Panthères Noirs, il y avait un moment où presque tout le parti des Panthères Noirs était réduit à une organisation de défense parce que presque tous leurs leaders et beaucoup de leurs participants étaient en prison à des charges fabriquées. Nous disons maintenant qu'il est nécessaire que chaque organisation participe avec des représentants dans un front unifié pour qu'on puisse continuer la lutte. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas une lutte contre le chômage, parce que ça, c'est maintenant peut-être le problème le plus grand aux États-Unis.
Vous faites toujours partie du Parti communiste américain ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Est-ce que les communistes continuent à être très minoritaires dans le mouvement noir et même, d'après ce que vous montrez dans votre livre, regardez avec une certaine suspicion parce que, après tout, le marxisme, c'est une idéologie de blanc?
Alors, je crois de plus en plus que les Noirs commencent à voir le racisme et toute l'oppression dirigée contre les Noirs comme une partie d'un système plus grand, comme une partie du capitalisme. Et alors, il est nécessaire pour détruire les racines du racisme, de renverser tout le système. Il y a beaucoup de Noirs qui maintenant se considèrent comme marxistes.
Et ça, alors, c'est votre position à vous. Est-ce que vous pensez donc qu'avec, par exemple, un renversement de régime, ça résoudrait tous les problèmes raciaux?
Non, pas du tout. Pas
Parce
du
qu'ils
tout.
Existent également en régime
pas
socialiste.
Pas du tout. Je ne dis pas qu'automatiquement le racisme pourra disparaître avec le renversement du capitalisme. Ce que je dis, c'est qu'il n'est pas possible d'établir une base pour éliminer tous les vestiges de racisme sans le renversement du système dans lequel les racines sont présentes. Et je crois que quelque chose qui est très important quand on parle du mouvement noir aux États-Unis, c'est les développements en Afrique. Parce qu'il y a une espèce de solidarité instinctive qui existe entre les Noirs aux États-Unis et les Noirs en Afrique. Et on a vu, par exemple, la lutte à Guinée-Bissau. Et on a vu la victoire. Et à Guinée-Bissau, on parle du socialisme parce qu'ils ont vu que toute leur oppression colonialiste était liée au système global capitaliste. Alors, lorsque les Noirs aux États-Unis voient ce qui se passe en Afrique, il y a un effet très important. Malcolm X, par exemple, juste avant son assassinat, il était revenu d'un voyage en Afrique. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que partout où il est allé dans les pays indépendants en Afrique, on ne parlait pas du capitalisme. Parce qu'avec le capitalisme, il faut toujours avoir quelqu'un pour exploiter, opprimer. How do you say? Suck the blood.
Pour sucer le sang.
Oui, il se dit un capitaliste, c'est quelqu'un qui suce le sang. Il faut toujours faire cela. Sans cela, on n'a pas de capitalisme. Alors, il y a aussi, on doit regarder ce qui s'est passé autour de l'affaire Watergate et les révélations du rôle des grandes corporations, monopoles. Et le rôle que les corporations jouent directement dans les choses les plus antidémocratiques aux États-Unis, dans le renversement du gouvernement démocratique socialiste à Chili. Alors, non seulement les Noirs, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de Nord-Américains aux États-Unis qui maintenant sont réceptifs aux idées socialistes.
Vous avez parlé d'une certaine confusion idéologique du mouvement noir, où on voit apparaître des courants extrêmement différents, certains prônant un État noir indépendant aux États-Unis, d'autres prônant un véritable retour en Afrique, ou d'autres l'élimination complète des Blancs. Alors est-ce que aujourd'hui, avec davantage de recul et d'expérience, le mouvement noir sait mieux où il va?
Bon, alors, il y a encore plusieurs tendances, c'est vrai, et je ne crois pas qu'on peut avoir une clarté très grande si on ne trouve pas cette clarté dans la pratique même. Il y a encore plusieurs organisations panafricanistes, organisations qui croient qu'il faut établir un État noir. Mais je crois que le courant le plus en plus important, le courant qui devient de plus en plus grand, c'est le courant marxiste, c'est le courant anticapitaliste, le courant socialiste.
Et vous, Angela Davis, quelle est votre solution alors pour la communauté noire des États-Unis?
Comme j'ai dit dans le livre, je crois qu'il faut projeter la libération des Noirs dans le contexte de la libération de toutes les nationalités opprimées et de la libération de la classe ouvrière. Il faut se rendre compte que quand on parle de la population noire aux États-Unis, on parle d'une population dont 94% sont des ouvriers. On parle d'une population où lorsqu'il y a une crise économique comme maintenant, les Noirs sont les premières victimes, les victimes les plus graves. Alors il faut lutter pour la... Il y a toujours une lutte séparée, une lutte exprès pour la libération noire. Mais cela n'est pas du tout en contradiction avec la lutte pour le socialisme. Et aussi, il faut regarder la lutte contre le racisme comme centrale dans la lutte anticapitaliste. Parfois, on a la tendance de considérer le racisme comme seulement des attitudes. On croit que s'il y a beaucoup de Blancs qui n'aiment pas les Noirs, cela, c'est le racisme. Et bien sûr, il y a le niveau attitudinal du racisme. Mais je crois qu'on doit regarder le racisme premièrement comme un arme de la classe dominante. D'abord pour surcroître les profits des capitalistes, mais aussi pour confondre les Blancs. Et pendant toute l'histoire des États-Unis, le racisme a été l'arme la plus importante dans l'arsenal de la classe dominante. Et maintenant, ce qui se passe autour des efforts d'intégrer les écoles, les lycées, c'est clairement encouragé par Ford, par le président et par la classe dominante. Ceux qui pratiquent ce racisme violent, ce sont les Blancs ouvriers. Il faut leur apprendre que ce n'est pas du tout dans leurs intérêts de lutter contre les Noirs.
On a l'impression qu'il y a un peu une contradiction chez vous quand vous écrivez ce livre, parce que nécessairement vous vous mettez en vedette, vous intitulez d'ailleurs votre livre « Autobiographie ». Je ne sais pas si c'est le titre que vous lui avez donné dans sa version anglaise. Et en même temps, vous craignez qu'on interprète de cette façon votre livre en expliquant que vous voulez parler de votre propre cas en tant que militante. Mais finalement, est-ce que vous n'êtes pas devenue une vedette malgré vous et que ça fausse un petit peu le jeu du militantisme?
Bon. Alors, je dis toujours que le rôle que je joue maintenant, ce n'est pas le rôle que j'ai voulu jouer, parce que personnellement, je ne me trouve pas très à l'aise avec les journalistes et dans les meetings très grands. Parce que j'étais professeure. Et bon, alors ça c'est une part. Mais je croyais, je crois que après le mouvement qui a gagné ma liberté a réussi avec tellement de force, il était nécessaire de contribuer quelque chose, tout ce que je pouvais pour continuer cette lutte. Parce que je sais, s'il n'y avait pas ce mouvement, je serais en prison maintenant. Je suis sûre que je serais en prison. Alors, je crois qu'il est nécessaire d'utiliser toutes les plateformes pour communiquer le message de la lutte à tout ce qui peut-être sera réceptif. D'abord, lorsque on m'avait approché avec l'idée d'une autobiographie, je disais non, parce que je ne voulais pas du tout personnaliser la lutte, parce que ce n'est pas une lutte autour des individus. Mais puis, j'ai réfléchi un peu et j'ai décidé que peut-être avec une autobiographie, nous pourrons atteindre beaucoup plus de personnes, des gens qui n'aiment pas lire des pamphlets, des gens qui ne peut-être pas qui ne viendront peut-être pas à une meeting politique, mais qui peut-être liront une autobiographie. Et si je pouvais montrer comment je suis arrivée à mon propre engagement politique, et que c'était pas quelque chose d'exceptionnel, c'était quelque chose de très normal. J'avais des motivations très humaines, très normales. Alors, c'était peut-être une façon d'apporter beaucoup plus de personnes dans notre monde. C'est pour moi une arme de la lutte.
The capitalist system, I will tell you the reason why.
C'était là une interview exclusive que Jean-Montel Betty a fait, une interview pour les après-midi de France Culture.
Oh, I guess I know you wondering what it has done to me. Well, I am going to tell you that my husband had TB, brought on by hard work and low wages and never enough to eat, and going ragged and hungry with no shoes upon his feet. Well,
vous venez d'entendre un entretien historique entre Angela Davis et Jean-Montel Betty, diffusé dans les après-midi de France Culture le 16 mai 1975. Pour réécouter ou podcaster cette émission, franceculture.fr, à la page des nuits.